Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
J'accueille en studio Fernando Fortin, entrepreneur en construction. Fernando, c'est un gars que je connais et m'a appelé hier pour me raconter tous les dédales administratifs auxquels sa conjointe fait face en Pologne. Elle est ukrainienne. Ils se sont rencontrés il y a 3 ans. Et après avoir fui sous les bombes, ben là, Olga est pognée dans les sables mouvants de la bureaucratie d'Immigration Canada. Il est en studio. Salut, Fernando.
Bonjour, bonjour, c'est Patrick, ça va bien?
Oui, merci d'être là. Quand tu m'as appelé puis que tu m'as parlé de ce que vivait ta blonde, Olga, qui est maintenant en Pologne, écoute, t'étais renversé, t'étais au bout des nerfs. Raconte-nous, on va y aller chronologiquement, OK? D'accord. D'abord, comme beaucoup d'Ukrainiens, d'Ukrainiennes, Olga croyait pas que les Russes allaient envahir. Ça a été une surprise pour elle le 24 février. Comment elle t'a raconté ça?
Ben absolument. Écoute, nous autres, on se préparait pour s'en aller à Costa Rica, comme je t'ai expliqué. Puis quand ça s'est déclaré, on a dit, ben là, il y a quoi qui va se passer? J'ai dit, écoute, viens-t'en. Viens-t'en tout de suite à Montréal. On va s'en aller où? On s'en va à Costa Rica tout de suite. Ben non, Poutine ne fera jamais rien. En fin de compte, ben là, ça a déclaré. Ça a commencé la guerre, fait qu'elle a resté dans son condo. Ça va passer une journée ou deux, il n'y a pas de problème. On va se cacher dans le bain, comme qu'ils nous disent de faire, des mesures de sécurité. Mais là, c'était rendu que ça était de pire en pire. Les attaques allaient de plus en plus. Il y avait des nouvelles de son frère à Kharkiv, qu'il y avait des frais bombardements. Mm-hmm. Fait que là, c'était rendu qu'ils se cachaient dans le bunker. Puis ils ont fait 4 jours dans le bunker à se coucher jour et nuit. Ils ne sortaient pas du bunker là, pendant 4 jours avec son fils. Tu peux pas rien emmener. Là, tu t'abandonnes là, puis là, c'est la panique. Là, tu paniques.
Et là, elle a décidé de fuir et tout ce qu'elle a pu sortir, c'est 2000 euros, si je comprends
bien. 2000 euros, elle était à la banque, elle a sorti 2000 euros, c'est tout ce qu'il donnait aux gens. Le guichet, ça marche pas. Puis là, les banques ont tout arrêté, il n'y a plus rien qui marche. Aucune carte de crédit, il n'y a pas de Mastercard, il n'y a rien.
Et là, direction la Pologne.
C'était pas encore la Pologne, moi je ne savais pas, j'étais en communication avec elle, puis les communications, j'ai toujours une communication avec elle dans le bunker, en vidéo. Puis après ça, les communications ont complètement arrêté. Plus de communication,
plus de nouvelles. Taux,
aucune nouvelle. 19h30, je capotais, je broyais, j'étais en train de faire une dépression. Je t'en remets vous, là. Tu te poses des questions, tu dis qu'est-ce qui est arrivé? Y a-t-il une bombe qui est tombée? Et en fin de compte, on était dans le train. Il y a des résistances ukrainiennes qui ont volé un train, carrément. Puis qui ont embarqué des femmes et des enfants dans le train pour les emmener aux lignes de la Pologne, à 10 km des lignes de la Pologne. Et de là, ils sont obligés de marcher dans le bois dans la nuit. Là, ils faisaient, dans cette température-là, c'est moins 6, moins 8.
C'est l'hiver là-bas, là.
L'hiver, puis ils sont dans la boîte, dans l'eau, avec des enfants, des vieillards avec, là. Puis ils marchent dans le bois pour sortir pour s'en aller aux lignes de la Pologne parce que les Russes attaquaient ce côté de la Biélorussie. Donc, ils ne pouvaient pas passer par les routes. Oui. C'était impossible de partir par là. Puis les voitures, oublie ça, c'était impossible.
Là, elle est arrivée en Pologne.
Oui, par chance.
Parfait. Par chance. Et ça ressemble à quoi sa vie en Pologne présentement?
Ben là, avant qu'elle se décide d'aller en Pologne, c'est moi qui ai dit, écoute, les Canadiens sont de l'autre côté. Je savais, il avait annoncé que le Canada est là, tous les pays sont là pour donner un coup de main à tout le monde. Et quand il est arrivé là-bas, il n'y a personne. Tu arrives aux lignes, tu as l'armée qui est là, ils t'envoient dans les tentes de United Nations. Donc, soit tu t'en vas dans les tentes.
Pour les réfugiés. Là,
Les réfugiés, tu t'envoies dans les tentes, t'es 500, 800 par tente, puis tu restes là. Puis t'attends de te faire téléporter d'un pays qui va t'accepter ou peu importe. Mais tout le monde, beaucoup, appliquait pour le Canada.
Puis évidemment, toi, tu sais, viens-t'en chez nous, je vais t'accueillir.
Canada, les bras ouverts, puis c'est annoncé. Ah oui. Il y a des programmes.
Ah oui, nos dirigeants le disent, on ouvre les portes.
Venez-vous-en, laisse faire les papiers. J'ai même dit, je laisse faire les papiers. Ben, j'ai mon passeport, j'ai les baptistages, j'ai tout. Viens-t'en, le Canada va te recevoir, il n'y a pas de problème.
Mais entre le discours de nos élus et la réalité bureaucratique en Pologne, il y a un sacré monde de différence. Raconte les difficultés auxquelles fait face Olga.
Ben là, c'est les 12 travaux d'Astérix. C'est carrément les 12 travaux d'Astérix. Je ne sais pas à quel bureau tu parles. Quand j'ai appliqué le 3 mars pour eux autres, pour les deux formules, j'ai dit, je veux faire les déclarations. Tu sais, un document pour les visas de réfugiés de guerre. Mm-hmm. On me dit à Immigration Canada, ben, tu ne peux pas faire une demande pour réfugiés de guerre parce que ce n'est pas la guerre. Ben, ils se bombardent. Il m'a dit oui, il m'a dit Trudeau l'a annoncé, sauf que dans les documents des ordinateurs, dans nos programmes, c'est pas marqué guide, donc faut que tu fasses une demande de visa de touriste. Si t'as pu comprendre.
Ben voyons donc.
Alors j'ai fait ma demande de visa de touriste. J'ai passé par l'engrenage du 3 mars. Alors là, vous attendez, ça va prendre une semaine ou deux. On est attendu. Rendu le 11, j'ai pété la coche parce qu'à tous les jours, j'appelle puis il n'y a pas de nouvelles. Et le 11, on me dit, on est désolé, mais on ne trouve pas vos documents. Alors, il faut refaire les formules.
Et pendant ce temps-là, Olga, elle fait la file.
Elle fait la file.
À l'ambassade, là-bas.
Oui.
Mais je veux dire, elle ne peut jamais rentrer.
Absolument pas. Ils ne te répondent pas, là. Oublie ça, là. Fait que là, elle, j'ai dit, là, on va te placer à l'hôtel. J'ai pas le choix. Là, ça coûtait 50$ par jour, dis que je t'avais dit.
Tu t'es dit, ben là, je vais la sortir du camp
semaines.
De réfugiés.
Ben oui, ouais. Deux semaines. C'est pas long, là. Fait qu'elle s'est rendue à l'hôtel, je paye l'hôtel et j'attends, mais là, les documents sont non existants. Tout ce que j'ai fait est à recommencer. Puis je t'ai dit, j'ai conduit à Toronto, j'étais à l'ambassade d'Ukraine pour trouver des translations ukrainien-anglais. Il n'y a rien qui marche. J'étais obligé de recommencer les formules le 11 mars au complet.
Là, ça coûte combien d'hôtels par jour?
Parce que là, c'est au début, j'ai payé 55 par jour. C'est quand même pas si pire. Puis j'ai envoyé de l'argent par TransUnion. Western Union, là, pour qu'elle ait de l'argent pour manger, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Là. Les cartes de crédit, rien qui marche. Rendu là, on a fait les formules, encore le 11 mars, pour son fils et pour elle. Le 14, elle reçoit une lettre du gouvernement, comme quoi qu'elle peut aller porter son passeport pour aller chercher son visa, mais il n'y a toujours pas celle de son fils. Alors,
ils ont perdu la documentation du fils.
Ils l'ont reperdu en compte une deuxième fois. Fait qu'ils ont dit, ben là, il faut refaire une demande. Pour son fils. J'aurais fait une demande.
Là, on va appuyer sur pause pour ce qui est des sables mouvants dans lesquels Olga est pognée avec son fils, OK? Et raconte aux gens qui nous écoutent là, comment les Ukrainiens ont pas tant de difficultés à aller dans d'autres pays, semble-t-il.
Non, absolument pas. C'est pour ça que Olga a pété une coche, c'est le bon mot. Toutes ses copines qui travaillent avec elle dans ses bureaux qui ont fui en même temps, ils sont déjà rendus aux États-Unis. Il y en a qui sont rendus en Espagne, en Autriche, la Suisse,
en
partout,
Australie.
Dans toute l'Australie, effectivement. Et ça a pris 3 jours. 4 jours, les autres sont déjà toutes partis avec des visas. Là. Les enfants sont à l'école, sont placés. Et nous autres, ça fait plus d'un mois qu'on attend dans l'engrenage, puis on n'a pas fini. Là.
Puis, elle vous a. Si elle vous avait pas, elle pourrait pas faire ça de là-bas.
Ah,
ça
non, non, absolument pas. C'est ce qui m'a plus enragé, parce que les Ukrainiens qui sont là-bas, s'ils n'ont pas d'aide, s'il n'y a personne qui traduit, qui fait la traduction, restes sur ce que t'es. Là.
Et
si tu n'as pas d'argent, encore pire.
Ce que tu racontes là, c'est ce que Oleg Kolebochin, qui est un gars de Châteauguay, qui est ukrainien d'origine, nous a raconté.
Exact.
Lui, il est allé là-bas puis il dit, écoute, moi, j'étais là, je traduisais. Si je ne suis pas là, je ne sais pas ce que les Ukrainiens
personne.
De ma famille puis leurs amis auraient fait. OK, là, la date d'arrivée, est-ce qu'il y en a une qui est estimée, là?
Oui, on le sait aujourd'hui, avec une grande peur. Elle a été pour son visa. Normalement, ils disent dans les documents, après qu'on ait fait les visas, on a toujours pas celle de son fils, oublie ça. Là. J'ai dit à Olga, va chercher ton visa, au moins tu vas avoir le tien de fait. On réglera Misha après, on va faire le tien, au moins c'est fait. On attend juste la lettre. Elle a été aujourd'hui, à 4h du matin, elle était en ligne. Elle a passé à 4h de l'après-midi. Elle a fait 12h en ligne. Pour passer, ils lui ont donné comme réponse, on est désolé, on ne donne plus de visas maintenant. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous inscrire à l'Internet. Le prochain rendez-vous, les plus proches, c'est le 7 mai. Et à partir du 7 mai, le 7 mai, il faut qu'elle prenne son rendez-vous et va se rendre là-bas pour porter le passeport seulement. Elle ne veut pas laisser son passeport, elle n'aurait plus de passeport. Là. Il faut qu'elle donne son passeport. Le passeport, il s'en va à Londres pour 3 semaines, une semaine ouverte. Et elle va recevoir le passeport en Pologne. Ils vont lui donner notre rendez-vous. Et de là, elle va pouvoir partir pour le Québec.
Fait que vous allez voir votre copine cet été?
Ben, peut-être au mois de septembre, comme c'est là. Ou septembre. Mais là, on n'a toujours pas son fils.
OK. On peut imaginer le tourment d'Olga. Okay.
Mais c'est pourquoi le tourment? C'est parce que le document qu'ils disent, le gouvernement, tu as besoin de venir au Canada, tu n'as pas besoin de tes documents, tu n'as besoin de rien. Même si tu n'as pas de passeport, on t'accueille au Canada immédiatement.
Mais ce que je t'écoute, là, Fernando. Ce que je comprends, c'est que, écoute, il n'y a pas la distance entre ce que dit le politique et ce que fait le bureaucratique.
Mais il n'y a rien.
C'est plus loin qu'Andicite et la Pologne.
Absolument. Absolument.
Toi, comment tu vis ça? Parce que là, tu vis ça en décalage. Là. Toi, là, tu te lèves la nuit pour y parler. Là.
Absolument. Puis il faut que tu parles avec l'immigration la nuit parce que Londres, ça l'ouvre. C'est plus tard.
Ben oui.
Je dors pas, Patrick. Je fais 2 heures, 3 heures par jour. Ça fait un mois. Puis tu sais, j'ai acheté ma nouvelle maison maintenant. Puis je dors pas. Je dors pas. Là, je m'en vais. La semaine prochaine, je m'en vais en Pologne. Là. Je vais y aller direct là-bas. Là. Faut que j'aille trouver un appartement. J'ai pas le choix. Je peux pas rester dans les hôtels. C'est ça.
À 150 piastres la nuit.
Là, je suis rendu à 150. Puis là, on a regardé tantôt. Elle vient de me communiquer à ma jante en onde. Elle dit, écoute, elle s'est rendue à 180 des places. À moins que tu restes dans la rue ou tu t'envoies des tentes
De l'ONU, là.
De l'ONU. T'as pas le choix, là. Puis là, elle avait donné un coup de main aux Ukrainiens là-bas, parce qu'elle parle anglais. Fait qu'elle veut donner, elle est avocate. Pis, alors, elle veut donner un coup de main.
Puis ici, à Saint-Sauveur, tu t'es déjà arrangé pour que le petit puisse aller à l'école.
Écoute, Saint-Sauveur, ici, au Québec, l'attente est incroyable. Si les gens sont... Écoute, ils ont tout préparé. L'école est prête. Ils ont du linge pour eux autres. Ils ont fait des collectes de linge. Ils ont des bons d'achat pour qu'ils puissent acheter des souliers, des bottes. Ils ont rien là-bas. Ils ont tout perdu, là. Ils ont tout déjà prêt. Tout est prêt en une semaine. Écoute, Saint-Sauveur, l'école de la Vallée, là, ils m'ont fait tomber à terre. Là. En une semaine, ils ont tout préparé. Ils ont du linge pour les deux. Là, comme que je serais même prêt de leur payer en...
En terminant, il y a un micro devant toi.
Oui.
C'est la seule chose que je pouvais t'offrir. C'est quoi le message que tu veux lancer au fédéral?
Bien, écoute, j'aimerais que le fédéral tienne leur promesse, qu'ils tiennent ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils ont... On est la risée du monde en Pologne. Tout le monde rit du Canada. Je suis tellement... Je braillerais, là. Je me retiens, là. J'ai aucun mot. Je veux que le gouvernement puisse ouvrir les portes aux Ukrainiens qui veulent s'en venir au Canada. C'est pas des criminels. Ils veulent avoir la paix. Ils veulent se sauver de la guerre. Parce que même si t'es en Pologne, tu vis ça, là. On est à 20 km des lignes, Patrick. Là. Tu l'entends, les bombardements à Lviv, là. C'est pas des jokes, là. T'es à l'hôtel, t'entends les bombes tomber. Il faut qu'ils partent de là, puis il faut que le gouvernement nous ouvre les portes, qu'on puisse aider nos Ukrainiens qui viennent ici. C'est pas juste ma copine, je parle des autres avec. Là.
Fernando, merci d'être venu nous parler de ça en fin de semaine, en cette émission. On va faire un suivi.
Merci.
On va te rappeler, puis on va documenter tout ça. Okay.
Et longue vie aux Ukrainiens, je te jure.
Bonne chance, je sais que c'est pas facile pour toi.
Et dites à votre copine que les politiciens font rien, mais que nous autres, les Canadiens, on veut qu'ils viennent.
Puis elle vous écoute là-bas, là. Elle est en ligne, présentement.
On salue Olga, ta conjointe, merci. Fernando Fortin, qui est pognée en Pologne dans les sables mouvants de la bureaucratie d'Immigration Canada. On va faire le suivi. Je me tourne vers mes camarades MC et Catherine. Vous avez été chamboulés par le témoignage de Fernando Fortin?
Vraiment. Puis, tu sais, je me demandais s'il était pour aller en Pologne. Je me disais, naturellement, quelqu'un est en Pologne. Oui, il va y aller. Il nous a confirmé la chose dans le corridor. Mais moi, j'aimerais bien qu'il revienne, Patrick. J'aimerais ça qu'il nous raconte la suite de l'histoire.
Écoute, je viens... Là, je suis pas... Quand je l'écoutais, j'étais ému. Et là, je vous le dis, je suis en tabac. Je suis allé leur conduire à la porte pour les gens qui nous écoutent, comment ça fonctionne ici. Évidemment, pas n'importe qui peut rentrer, fait qu'on va leur conduire. Fait que je suis sorti, ils disent on va appeler ma femme. Fait que j'ai vu le petit bonhomme dans la chambre d'hôtel.
T'as parlé à Olga, oui. T'as vu Olga, oui.
Et Misha.
Et elle me semble bien. Le petit gars sautait sur le lit comme il pouvait. Imaginez un enfant, là. T'sais, lui, il a tout vécu ça, puis il est pris dans une chambre d'hôtel. Et là, il m'a dit, je le cite, j'ai oublié de te dire quelque chose, peux-tu le dire à la radio? Je dis, ben oui, ça va me faire plaisir. Vas-y. Donc, ce qu'elle a dit en nous appelant FaceTime, c'est, je vais vous le dire en anglais parce qu'elle l'a dit en anglais, puis après ça, je vais le traduire en français. They gave us hope and they failed and they left us alone. Ils nous ont donné de l'espoir, ils ont échoué et ils nous ont abandonnés. Parce que, écoutez ce que les politiciens fédéraux ont dit, on va vous amener au Canada et la paperasse, ça va être après. C'est faux! Faux, archi faux. Si elle a un chum ici qui se démène pour les papiers, mais imaginez quelqu'un qui a personne ici. Donc, il n'y a pas de papier. Là, la prochaine fois, Mélanie Joly puis sa gang, là, ça va faire le niaisage. Le fédéral ne sert pas à 1000 affaires. Là. Le fédéral, il sert à quoi? Il sert à ça, les ambassades et aider les Canadiens à l'étranger et les gens proches des Canadiens à l'étranger et on est en période de guerre. Je suis sans connaissance. Ça me met. Je peux.
Tu m'enlèves les mots de la bouche. Et si je me fie à messagerie au 98985, t'enlèves les mots de la bouche des auditeurs aussi.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
L'Ontario a annoncé que sur certains tronçons autoroutiers, ben la vitesse va passer à 110 km/h. Et là, la question se pose, est-ce que le Québec devrait limiter? Et là, dans la messagerie, parce qu'on en a parlé depuis le début de l'émission, il y a quelqu'un qui me dit, écoutez, sortez de Montréal, parce que sur la 417 vers Ottawa, ça fait c'est déjà 110. Oui, je sais, la 417 vers Ottawa, qui traverse l'Est ontarien, était partie de ces projets pilotes ontariens. Donc, si vous êtes passé, si vous êtes allé à Ottawa récemment et que vous avez fait le saut en tombant en Ontario, où la limite est de 110, parce que c'était un projet pilote, et là, les projets pilotes, semble-t-il, ont donné des résultats assez intéressants pour qu'on permanentise cette mesure-là. On va parler tout de suite avec quelqu'un qui s'y connaît en matière de sécurité routière. Alain Joly est policier à la retraite. Il était porte-parole des consultations publiques sur la sécurité routière de la Société de l'assurance automobile en 2017 et professeur de technique policière au campus Notre-Dame de Foix. Monsieur Joly, salut!
Bonjour, M. Lagacé, ça va bien?
Oui, vous aussi, j'espère. Dites-moi, est-ce que c'est une bonne idée ce serait une bonne idée qu'au Québec, on hausse la limite de vitesse à 110?
Bien, permettez-moi de vous dire qu'en 2017, déjà, la société québécoise nous interpellait pour, effectivement, réfléchir à cette réalité-là. Aujourd'hui, quand vous regardez comment ça circule, eh bien, mythe ou croyance, déjà, on roule au-delà de 118 sans se faire arrêter, à moins qu'il y ait des problèmes. Mais je crois que la société québécoise, on est rendu là à se poser ces questions-là, à savoir, devrions-nous légalement le faire de façon à rendre la circulation plus fluide, évidemment en tenant compte des différentes conditions routières, facteurs atmosphériques, capacité de nos routes, mais moi, je pense qu'avec les habiletés des conducteurs, on est rendu là.
OK. Habileté des conducteurs aussi. Les voitures, moi, il y a beaucoup de gens qui me disent les voitures sont beaucoup plus sécuritaires en 2022 qu'elles pouvaient l'être en 2002 puis en 92.
Elles sont mieux construites et évidemment plus sécuritaires. Mais au-delà de ça, vous savez, quand on regarde aujourd'hui, on roule 118, bon, on dit que les policiers tolèrent ça, évidemment, dans bonne croyance, mais quand on va mettre ça à 120, puis si vous allez en Ontario, vous allez faire l'exercice vous-même, vous voyez, ça roule déjà 140 et souvent au-delà de ça. Alors, il y a une masse de circulation. Moi, je pense qu'il faut juste réfléchir à comment on va le faire, y aller par étapes. Peut-être un projet pilote, certains secteurs qui permettent de dire Québec-Montréal, on pourrait peut-être le favoriser, mais il y a d'autres endroits où ça devient plus difficile en raison des accidents ou des secteurs qui sont plus problématiques en densité de circulation. Je pense qu'au-delà de ça, moi, je pense qu'on est capable de s'adapter aussi.
Monsieur Joly, sur les tronçons autoroutiers, là, entre vous et moi, vous avez été policier longtemps, là, les policiers tolèrent jusqu'à combien?
Ça, c'est toujours la grande question. Je vais vous répondre de la façon magique. Ils tolèrent jusqu'à temps qu'ils s'aperçoivent que vous roulez trop vite en raison de la pression qu'il y a dans le secteur. La question de conditions atmosphériques. Et ça, là, c'est pas parce qu'on tolère jusqu'à 118 ou à peu près que quelque part, il n'y aura pas un policier qui décidera pas de vous arrêter à 105 ou 110 parce que vous avez eu des comportements dangereux aussi.
On se comprend, mais moi, j'ai toujours entendu dire que en bas de 120, t'es bien malchanceux de te faire achaler.
Absolument. Et ça, c'est pas une croyance, c'est pas un mythe, ce sont des facteurs qui sont réalistes. Et on sait, quand vous circulez, peu importe partout, là, vous allez voir, les policiers ont une certaine tolérance parce que ils disent, tant qu'à avoir quelqu'un qui est en infraction, je vais en avoir un bon pour pouvoir justement lui donner un billet d'infraction. Mais ceux qui sont à la limite, puis ce qu'on dit, qui ont une ligne de flottaison continue, ben ces gens-là sont rarement interpellés, à moins qu'il y ait des circonstances aggravantes ou dangereuses.
OK, ben je vous pose la question. Si on tolère présentement jusqu'à 119, on va dire ça comme ça, si on monte la limite à 110, on va tolérer jusqu'à 129.
Ben, et voilà. Ça, c'est toujours la question. On le fait d'une façon, je dirais, conventionnelle et on permet à tout le monde de pouvoir avoir cette option-là. Et quelque part, ben, les gens diront, ben oui, j'étais vraiment au-delà de la vitesse permise. Et ça, c'est encore plus facile de donner un billet d'infraction par après. Parce que là, ton seuil de tolérance a été dépassé. Donc, ton billet, tu le mérites encore plus.
On a beaucoup parlé, il y a ce mythe que les Québécois sont pas bons sur la route, que les Québécois sont plus imprudents, que les Québécois sont plus, délinquants. Mais écoutez, depuis 15 ans, là, le bilan routier au Québec, ça a été une révolution, ça s'est amélioré grandement quand même. Là.
Ben, effectivement, si vous tournez dans les années 70, où on était à peu près à 2000 quelques décès par année, on est à peu près à 350. Effectivement, cette semaine, j'avais un invité de la SAC qui a fait la démonstration dans mon cours pour mes étudiants. Puis, il brossait ce tableau-là. Mais ce qu'on a gagné, là, aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de le réduire par 5 %. Il y a plusieurs facteurs qui sont présents. Mais au-delà de ça, ce qu'on a gagné, il ne faut pas le perdre. Par contre, comme on dit toujours, l'arrivée des jeunes conducteurs qui fait en sorte qu'ils manquent d'expérience, l'autonomie des véhicules qui se développe de plus en plus, moi, je pense qu'on se devra trouver un juste milieu tantôt pour permettre à ce que ce soit plus facile de circuler et permettre aux gens aussi de pouvoir avoir une vitesse de croisière qui est plus réaliste aujourd'hui qu'elle l'était auparavant. Nos routes sont en excellent état dans certains cas, pas partout, évidemment. Puis, mais il faut dire que ça circule beaucoup plus facilement. Québec-Montréal, quand vous regardez ça, là, à 118, il faut vraiment avoir le temps de jaser avec sa compagne.
Écoutez, moi, j'aimerais bien ça, là, pouvoir rouler à 110 puis 120. Là, je trouverais ça bien le fun, mais il me semble avoir lu que c'est quasiment mathématique. Plus on permet aux véhicules d'aller plus vite, plus il y a d'accidents.
Absolument. Ben, ça, c'est une autre chose. Le risque, vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs, mais entre autres, moi, ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, les véhicules sont de plus en plus confortables. Alors, quand vous circulez à haute vitesse, vous n'avez pas le feeling que vous circulez à haute vitesse parce qu'ils sont bien construits. Donc, souvent, les inattentions aussi, ce qui fait en sorte que les véhicules, quand ça circule rapidement, puis si vous êtes dans la voie de gauche puis vous effectuez un dépassement à 108, exemple, un camion de transport, celui qui s'en vient à 120, 130 en arrière, il y a un risque d'impact qui est beaucoup plus présent et beaucoup plus grand aussi.
Pensez-vous qu'il y a un goût politique pour changer ça? Les échos qui nous viennent de Québec là, donnent à penser que pas sûr que le gouvernement veut embarquer dans la hausse de vitesse.
Ben, moi, je pense que le gouvernement devra s'adapter aussi aux demandes de cette société-là qui évolue. Si on veut récompenser des comportements, il faut parfois aussi être un peu tolérant. Mais d'un autre côté, on se dit, est-ce que je permets une vitesse de 110 alors que c'est la légalité plutôt que cette croyance-là qui fait que juge de tolérance puis que j'y vais, ça pointe des pieds, comme on dit. Alors, moi, je pense que c'est tout ça qui devrait être déterminé. Soyons francs, ayons des secteurs avec une belle signalisation, une signalisation efficace. Et à ce moment-là, on verra comment on se comporte. Mais c'est vrai, pour avoir été policier pendant 39 ans, ben on est parfois très délinquant. Et la preuve, j'arrive d'un secteur scolaire où j'étais avec des étudiants en observation. Et vous auriez dû voir le comportement de certains parents qui dépassent les autobus scolaires alors que les lumières rouges sont en fonction. Fait qu'il faut se poser des questions à savoir, sommes-nous prêts à faire les efforts? Si oui, ben soyons récompensés.
Monsieur Gelly, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Hey, bonne fin de journée à vous, au plaisir.
Salut, à la prochaine. Alain Gelly est policier à la retraite. Il a été porte-parole des consultations publiques sur la sécurité routière de la SAAC en 2017. Prof de technique policière au campus Notre-Dame de... Salut Luc.
Salut Patrick.
Bon, écoute, ce matin, tu as réagi là, en débat avec Nathalie Normandeau chez Paul Arcand à cette idée de peut-être importer ici au Québec là, la hausse de vitesse de certains tronçons autoroutiers à 110 km/h que l'Ontario va adopter. Je t'imaginais, toi, même vouloir descendre ça à 90 puis à 80.
Bon, premièrement, c'est ce qu'il faudrait faire pour l'environnement, de la descendre, la vitesse.
Oui.
Plus tu la descends, moins tu...
moins ça brûle de gaz.
20 % de différence entre 100 et 120. Puis même si m'apprend que c'est 40 % entre 100 et 140, ce qui est logique. Alors oui, surtout sur des gros véhicules. Donc oui, il y aurait une économie d'essence. Mais le gros de l'économie d'essence se fait par le poids du véhicule. C'est que Si tu épargnes 20 % en roulant à 100 plutôt qu'à 120, mais tu dépenses 80 % plus d'essence avec un pick-up qu'avec une Corolla à essence. Mm-hmm. Avec une Corolla hybride, tu dépenses plus de 200 % moins d'essence. C'est 4,5 litres versus 11 litres au 100. Fait que la grosse économie est dans la taille et le poids des véhicules. Surtout que dans une journée, dans une semaine, tu vas rouler quelques heures. Si tu fais beaucoup d'autoroutes, tu vas rouler quelques heures. Mais un citoyen ordinaire qui ne prend pas son auto sur les autoroutes tous les jours, il va rouler quelques heures par mois à 120 km/h. Or, le poids du véhicule, c'est chaque minute que tu le prends qui a une influence sur ton, sur ta consommation d'essence. Alors, oui, ça serait mieux de réduire la vitesse, mais ça serait une contrainte énorme. Alors que de réduire le poids des véhicules, ça serait une contrainte, me semble, moins, okay. Moins forte.
Bon, il y a tout le côté environnement, parce qu'évidemment, tu vas plus vite, tu brûles plus de gaz pour aller au même endroit. Parfait. Mais sur la sécurité, Luc, là, on serait tous contents de pouvoir aller plus vite en voiture. Mais d'un point de vue social, si ça fait monter le nombre d'accidents, qu'est-ce qu'on y gagne?
Ben, okay. Moi, je propose un deal. Les accidents se font dans des zones accidentogènes. Donc, quelquefois sur des autoroutes, il y a des autoroutes qui a des zones pour lesquelles il y a des zones accidentogènes. Il y a beaucoup de routes nationales pour lesquelles il y a des zones accidentogènes. Et il y a beaucoup d'approches des villes, les routes qui, quand elles s'approchent des zones habitées, où là, non seulement tu as des accidents, mais tu as des morts parce que le nombre de morts a beaucoup diminué quand il y a un impact entre deux véhicules immatriculés, mais ne diminue pas le nombre de piétons. Donc, le nombre de piétons, avant, ça représentait à peu près 13 % de la mortalité. Maintenant, c'est 20 % des morts. Alors, parce qu'il n'y a pas, de coussin gonflable sur un piéton. Donc, moi, je propose un deal. On met des contraintes très fortes sur les zones accidentogènes. Radar à planche, toi. Des radars en veux-tu en veux-tu, on beurre la place de radar. Et sur les autoroutes, surtout une autoroute en ligne droite, Montréal-Québec, ben, on donne un peu de marge de manœuvre. Parce qu'il n'y en a pas d'accident à ces endroits-là.
Mais attends. Il y a quelqu'un qui m'écrit et qui se dit policier en enquête collision, puis c'est un commentaire. Ça rejoint ma dernière question, Luc.
Oui, vas-y.
Pour sauver 15 minutes sur Montréal-Québec, vous êtes prêt à voir mourir plus de gens. C'est faisable, mais pour sauver quoi au final?
Bon, ben, il a raison.
Mais regarde.
Mais est-ce que j'aimerais ça que tu lui renvoies un courriel en lui demandant est-ce qu'on ne sauverait pas beaucoup plus de personnes en travaillant sur les zones accidentogènes? Par exemple, deux, trois exemples. Bon, on a donné l'Ontario, c'est pas partout qu'ils veulent le mettre à 110, c'est sur certains tronçons.
Oui.
Deuxième exemple, les autoroutes françaises. Les autoroutes françaises, et ça me semble tellement évident, je ne sais pas pourquoi on ne fait pas ça ici. La vitesse diminue en fonction des circonstances, du contexte. Par exemple, c'est 130 km/h en tout temps, 110 km/h s'il pleut, puis là, il y a des panneaux qui brillent, là, des panneaux qui s'allument, puis qui disent non, en ce moment, c'est 110 km/h. 50 km/h si la visibilité diminue à moins de 50 mètres. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi on avait la même vitesse une belle journée d'été que pendant une tempête d'hiver. Une tempête en hiver, tu as le droit de rouler à 100? Puis une belle journée d'été, tu as le droit de rouler à ça.
En fait, c'est moyennement vrai ce que tu dis là.
Ah bon?
Parce que dans une tempête de neige, si tu roules à 110 dans la voie de gauche, là, la police peut, semble-t-il, te donner une contravention parce que tu es aussi censé adapter ta conduite aux conditions. Je te dis ça, là, mais je te dis
d'accord,
ça pour l'avoir
déjà entendu. D'accord, mais ça, l'officiel disait, au lieu d'en faire...
Si on avait des panneaux électroniques, on pourrait dire, OK, dans cette tempête de verglas, c'est 20 la limite.
Ben oui. Tu sais, quand on voit les gros accidents là, qui impliquent là, des dizaines de voitures sur l'autoroute, souvent un brouillard soudain, par exemple. Sur la rive sud, ça arrive souvent. Un verglas, une bourrasque. Des bourrasques de neige. Tu sais, quand les autoroutes passent sur le bord des champs où il y a énormément de vent et de poudrerie. Alors, ces endroits-là, des gros panneaux électroniques, là, puis 50 km/h. D'ailleurs, les gens le font spontanément, mais il y en a qui le font pas. Tu sais, toi, tu réduis à 50, mais à un moment donné, tu vois un missile qui passe à côté de toi. Alors, je pense que la sécurité, globalement, s'améliorerait si on avait une approche un peu plus diversifiée. Il y a une autre affaire, c'est les accidents dans la congestion. Là, quand tu avances, puis tout à coup, ça freine devant. Là. Il y a une étude amusante qui a été sortie par Catherine Morancy en collaboration avec Équiterre qui dit que plus les véhicules sont gros, moins ils freinent vite. Et donc... ça n'a pas juste un impact sur la sécurité, ça a aussi un impact sur la congestion. Il semblerait que la congestion dans les zones où tu dois freiner puis accélérer souvent, par exemple, lorsque ça commence à être tendu là, à l'approche d'une ville, ben c'est 4 fois plus de congestion si c'est des gros véhicules que si c'est des tout petits véhicules. Elle comparait une Smart avec un Ford Expedition et ça donnait 3,7 minutes pour parcourir 5 km avec des petits véhicules, 12,7 minutes pour parcourir le même tronçon avec des plus gros véhicules. Pourquoi? Parce que comme ton temps de freinage est plus long, mais tu vas freiner plus en avance, puis tu vas repartir plus lentement. Mmh. Et ça, ça va créer beaucoup de congestion.
Autre proposition, Luc, sur la messagerie. Alors, je te l'envoie. Jade nous propose 110 maximum pour voiture électrique, 95 pour voiture à essence.
C'est vrai que pour la consommation, ça ferait toute la différence.
Non, mais puis en fait, c'est un incitatif supplémentaire. Car...
Bien, je voulais juste ajouter le fait qu'on a déjà eu comme limite 120 au Québec avant 1973, ouais. avant la crise du pétrole. Donc, les limites ont été baissées justement quand il y a eu ce problème avec le pétrole pour ralentir les gens.
Et à l'époque, il y avait 2000 morts par année sur les routes.
Oui, on n'avait pas les mêmes voitures non plus.
Et pour un parc automobile, deux fois moins.
Mais les voitures sont plus sécuritaires.
C'est vrai.
Puis, dernier élément, c'est la sécurité des piétons. Juste tantôt, les piétons continuent de mourir en grand nombre sur les routes et ça se produit là où il y a des zones habitées. Une zone habitée, je sais que quand tu arrives à l'approche d'un village, là, ça réduit, c'est 50 km/h. Okay. Mais il y a plein de zones habitées où tu n'es pas à l'approche d'un village, puis tu peux rouler vite, et où il y a des jeunes qui marchent sur le bord de la route pour aller travailler, pour aller à l'école, etc. Dans ces cas-là, moi, j'aurais aucune pitié. Là. C'est gros radar, grosse contravention. Là.
Mais tu sais, en France, c'est un pays qui était reconnu pour la violence de ses routes. Ok, là, vraiment, oui. Les Français se tuaient beaucoup plus que les autres. Et je parle pas de nombre absolu, je parle de taux de mortalité par 100 000 habitants. Et là, à un moment donné, le président, je pense que c'est Chirac qui a dit, ok, là, ça n'a plus de bon sens. Ils ont entrepris ce chantier-là avec plein de mesures, dont les radars photos. Et c'est là que ça a commencé à planter.
Ben, écoute, moi, j'habitais en France avant que la vitesse diminue. Là, tu pouvais pas te mettre dans la voie de gauche si tu roulais pas à 150. Tu roulais à 120, là, tu recevais les appels de phare d'une voiture qui était à 2 km. Tu avais juste le temps de te rabattre, puis elle était déjà rendue sur toi parce qu'elle roulait à 180.
Et sur l'autobahn en Allemagne, là, essaye de te mettre à gauche à 130, 140. Le monde s'en met à 200.
Ramasser, mais Luc, pourquoi on aime ça? Pourquoi on aime ça rouler vite?
Écoute, je le sais pas, Patrick, mais un jour, je suis tombé sur... Puis là, MC Gilles, tu vas aimer ça. Un jour, je suis tombé sur un témoignage d'un curé qui était en chaire à la fin du 19e siècle dans une petite campagne québécoise.
T'as lu ça quelque part, t'étais pas là, là.
Oui, j'étais pas présent.
Parce que là, je m'inquiète. Il est un vampire.
Mais oui, je l'ai lu, bien sûr. Puis là, il disait, le curé disait en chaire... d'arrêter de s'acheter des chevaux de course. Il disait, vous êtes des agriculteurs, vous avez besoin de bons chevaux de trait, arrêtez de vous acheter des chevaux de course. Puis, ça a l'air que c'est dans notre sang depuis longtemps. Et une autre affaire qui est dans notre sang depuis longtemps, c'est le refus de pénaliser très fortement. Il y a une compagnie, cette semaine, il y avait une compagnie d'autobus scolaires qui disait, je vais finir par partir du Québec. Ça fait des années qu'on essaie de pousser Québec à adopter une législation selon laquelle les autobus scolaires soient équipés de caméras pour filmer les voitures qui les dépassent lorsqu'elles sont à l'arrêt. Ça marche dans plein d'États américains, ça marche dans plein de pays. Ici au Québec, ça nous est refusé depuis des années. Ben, mettez-en des maudites caméras, puis mettez-en des maudits radars. Y a-t-il quelque chose que je comprends pas, vous comprenez?
Ben, moi, quand il y a eu l'idée des radars photo, okay? quand j'écrivais là-dessus, là, je te parle fin des années 2000, là, chaque fois que j'écrivais là-dessus, que je disais que ça nous prend un système de radars photo parce que ça va nous aider à baisser la mortalité routière, je te dis pas la MARDE rentrait dans ma messagerie. Écoute, les gens veulent pas. Parce que dans la tête des gens, tous ceux qui nous écoutent présentement, ils conduisent bien. C'est les autres qui conduisent mal. Eux, ils sont prudents même à 130. Tu comprends? On surévalue toujours on sous-évalue toujours, pardon, notre risque d'accident.
Ben, effectivement. Hein. Puis ça, c'était un sondage qui était fait dans des séminaires sur la sécurité routière. Ils demandaient aux gens, levez la main ceux qui conduisent mal. Puis ça donnait que si on avait eu une proportionnalité entre le nombre de morts sur les routes puis ceux qui levaient la main, ben on aurait eu 2 morts par année, là, alors qu'on en avait 200-300.
Dernière question. En Bixi, là, Est-ce que tu respectes les limites de vitesse?
Je suis pas un bon conducteur dans rien, ni en vélo, ni en auto.
Tu as même eu un ticket un jour parce que tu roulais sur le trottoir à l'envers sur Saint-Laurent.
Oui, c'est vrai. Ben oui. Non, je suis pas un champion. Vraiment pas un champion là-dedans.
Hey, ton défi cette année, c'est de mettre ton casque.
Le casque, le défi du casque qui revient. J'ai hâte de mourir, crime pof, ça s'en vient. Là,
Luc, c'est ton seul outil.
Touche du bois.
C'est ton seul outil. Si tu l'endommages, tu ne pourras plus nous faire des chroniques.
C'est un appel à l'aide que tu viens de nous faire. Là. Appelle-nous, Luc, on va t'aider.
Merci, Luc.
Salut, bye.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
15h presque 26 minutes, on va parler de la pandémie, hein, qui on voudrait bien l'oublier, mais cette pandémie-là semble ne pas vouloir être oubliée. Ben, il y a une hausse des cas d'infection à la COVID. Ça se vérifie d'abord dans les anecdotes, là, j'en parlais hier. Regardez vos médias sociaux, regardez autour de vous. On connaît tous des gens qui parlent de leur diagnostic positif. Je le disais hier, dans ma journée, il y a plein de gens dans mon entourage professionnel et personnel qui se révèle positif depuis quelques jours, chaque jour. Et écoutez, il y a l'INSPQ, pardon, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, hier, qui parlait d'une hausse importante à prévoir dans les hospitalisations d'ici deux semaines. On a même nommé du côté de l'INSPQ qu'on est dans une sixième vague. Et aujourd'hui, le ministre Christian Dubé a dit que c'était attendu, qu'il faut apprendre à vivre avec le virus. Et toujours aujourd'hui, le directeur national de la santé publique, Luc Boileau, était chez Bernard Drinville. On va écouter un extrait de son entrevue.
Le BA2 qui, lui, circule encore plus vite, il vient toutes les chercher là, plus rapidement encore. Alors, la question se pose si on doit ou non encourager à nouveau le maintien du port du masque pendant un certain temps, pas éternellement évidemment, là, mais le temps de traverser cette vague-là ou de ses effets dominants.
Donc, le gouvernement, hein, on le sait, le dit depuis longtemps. Le 14 avril, c'est le jour où on va larguer le masque. Et même quand ça a commencé à monter, on s'en tenait toujours au 14 avril et on disait, écoutez, il y aura un jour de libération du masque. Et là, aujourd'hui, ben, Dr Boileau, on l'entend, et pas mal moins, disons, définitif là-dessus. On va parler avec Dr Mélissa Généreux. Elle est médecin spécialiste en santé publique, professeure à la Faculté de médecine de sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Et elle a aussi travaillé à la santé publique de l'Estrie. Dr Généreux, bonjour.
Bonjour.
Je souligne que vous êtes candidate pour Québec solidaire au scrutin d'octobre prochain. D'abord, quand on voit la hausse des cas, c'était prévu, mais est-ce que c'était prévu à ce point-là?
Bien, en fait, c'est toujours difficile de pouvoir projeter tant d'avance, mais je vous dirais que lorsqu'on voit les projets, bien, en fait, ce qui se passe dans les pays européens qui nous ont toujours devancés, pour moi, ça devenait presque une évidence que ça allait arriver ici au Québec. Donc, est-ce qu'on est surpris? Malheureusement, non. Peut-être que ça va être de voir jusqu'à quel point le pic va être élevé ou on va réussir à avoir une vague plus clémente. Là, moi, c'est plus là-dessus que je miserais plutôt que de se poser la question si on est en vague 6 ou pas, parce que malheureusement, on l'est.
OK. Les mesures, ce qu'on appelle populationnelles, sont en voie d'être larguées. Est-ce que vous estimez que ça s'est fait trop tôt ou, vu l'humeur du public, c'était la bonne chose à faire?
Bien, exactement. C'est toujours une histoire d'équilibre, de tenir compte de l'ensemble des effets ou des conséquences de ces mesures-là. Je pense qu'il faut toujours l'appuyer sur le point de vue scientifique, autant les risques de transmission du virus que les impacts psychosociaux. Donc, dans ce sens-là, le fait que certaines mesures populationnelles aient été estompées graduellement, puis qu'on essaie d'éduquer le public à devenir plus vigilant, puis d'apprendre à vivre avec, de responsabiliser finalement les gens, je pense que c'était la bonne chose à faire. Maintenant, est-ce que c'était trop tôt? Je pense qu'on pourrait critiquer d'une façon ou d'une autre, parce que si on le garde trop longtemps, bon, on pourrait dire qu'on a nuit encore plus à la santé psychologique des gens. Donc, il n'y aura jamais vraiment une décision parfaite, à mon avis.
Le masque, est-ce qu'on devrait attendre avant de le larguer, repousser un peu plus loin qu'à la mi-avril?
Mais je peux comprendre que cette hésitation-là à retarder le retrait du masque, qui est à peu près la seule dernière mesure populationnelle qui reste, en ce sens qu'on comprend qu'une fois qu'on l'a retiré, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Donc, je pense que d'exercer une grande prudence puis d'attendre dans les derniers jours là, pour voir la situation épidémiologique à ce moment-là sera probablement la chose à faire. Là. Moi, je pense que de prendre des décisions trop rapidement et d'être peut-être trop jovialiste et ensuite de revenir en arrière, ça peut causer peut-être plus de tort que de bien.
Qui a été jovialiste, selon vous?
Ben là, vous venez de dire que je suis candidate QS, puis je voudrais pas avoir l'air d'être teintée dans mes propos, mais je pense quand même que dans les dernières semaines, derniers mois, on a eu quand même un regain d'optimisme optimiste là, sur les suites. Bon, puis peut-être que la population en avait besoin, mais d'un autre côté, c'est peut-être plus difficile à absorber l'arrivée d'une sixième vague alors qu'on on voyait peut-être pas venir ça d'un point de vue de la population générale vu le discours un peu jovialiste qu'on entendait de nos autorités.
OK, mais qui a été particulièrement jovialiste pour vous?
Ben, les autorités qui s'expriment dans les points de presse, là, je dirais. Donc, je pense qu'on sait tous qui sont là, les trois mêmes figures. Mais comme je vous dis, au moment où ils l'ont fait, on a tous bien accueilli ça et on était bien contents. Mais je peux imaginer qu'en ce moment, pour la population, de dire, ben là, est-ce qu'on est vraiment en vague 6? C'était pas fini, cette histoire-là. Il y a peut-être eu un optimisme qui a amené les gens à vraiment passer à autre chose et à se dire que c'était fini. Qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile à accueillir que finalement, non, c'est pas tout à fait fini.
OK. Vous parlez de jovialisme, c'est votre mot, docteur Généreux, c'est pas le mien. On avait reproché au docteur Arruda de prendre des décisions qui étaient souvent plus politiques que santé publique. Et quelle note vous donneriez à docteur Boileau, son remplaçant, à cet égard-là?
Oh, ben, je peux pas rentrer dans les comparaisons parce que docteur Boileau arrive dans un moment super différent de celui de docteur Arruda. Ben, j'ai vraiment un grand respect, là, ces deux collègues que je connais très bien aussi, là. Mmh. On est tous des médecins en santé publique, mais je pense qu'il est arrivé docteur Boileau dans une période bien particulière avec des attentes quand même assez importantes là, de la population, mais aussi, je pense, des autorités plus politiques, là, de davantage montrer qu'on fait on tient compte du discours des scientifiques, on est bien entouré. Et ça, à cet égard-là, on le sent quand même assez bien. Là. Bon, mais ceci étant dit, rendu là, c'est une perception que je peux avoir comme n'importe qui de voir à quel point le politique joue ou pas. Là.
Mais je vous pose la question, docteur Généreux, parce que bon, vous êtes formé en santé publique. Vous connaissez la façon dont la santé publique prend des décisions. Vous savez aussi qu'il y a des limites dans ce que la santé publique peut faire, que c'est le politique qui décide bien souvent. Dans le cas de Dr Boileau, le remplaçant de Dr Arruda, est-ce que vous trouvez que ces décisions sont généralement basées sur du scientifique ou de la politique?
Mais comme je vous dis, ce que je trouve, c'est ce que j'observe au même titre que vous ou n'importe qui regarde les points de presse. Je n'ai pas accès aux discussions, aux échanges derrière la caméra qui mène aux décisions. Par contre, je trouve qu'il appuie quand même mieux ces décisions avec les arguments scientifiques. Ça, je trouve qu'il y a quand même un effort. Ceci étant dit, est-ce que la structure en ce moment qui fait en sorte que le directeur national de santé publique est aussi sous-ministre adjoint et donc quand même un lien assez étroit avec le politique, ça, cette structure-là demeure. Donc, il y a toujours cet enjeu-là, à mon avis, puis aussi la façon dont le directeur national est nommé par une instance politique. Donc, tu sais, il y a encore là, des enjeux structurels qui n'ont pas du tout changé, même si on a changé la personne.
Si je comprends bien ce que vous me dites, c'est qu'au-delà de la personne, tant que le directeur de la santé publique du Québec est un sous-ministre qui est inféodé aux politiques, ben, on n'aura peut-être pas toute l'indépendance à laquelle on est en droit de s'attendre.
Mais exactement. Il y a un risque, évidemment, parce que la personne peut être très, très, très rigoureuse, mais la structure fait en sorte que c'est très personne dépendant. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'on pense que d'avoir un peu plus d'indépendance de la santé publique, ça pourrait en soi aussi être rassurant pour la population, puis enlever ce risque-là là, de lien un peu trop étroit entre la santé publique et la politique.
OK. Quand vous étiez à la direction de la santé publique en Estrie, docteur Généreux, est-ce que vous sentiez que, comme médecin conseil, vous pouviez dire et faire ce que vous vouliez ou il y avait toujours une préoccupation que le politique pourrait être fâché?
Bien, j'ai même été directrice régionale de santé publique pendant 6 ans, là, donc je connais très bien ça. Bien, il y a quand même une loi sur la santé publique là, qui fait en sorte que le directeur régional, du moins, oui, on est nommé par le ministre ou la ministre, mais une fois qu'on détient la nomination, on a ce pouvoir-là et ce devoir-là au sens de la loi sur la santé publique d'identifier les menaces à la santé et de les communiquer à la population et de communiquer les bons moyens pour se protéger. Donc, techniquement, on a une autonomie. Moi, je me suis jamais gênée pour la prendre. Puis je me suis toujours dit, ben si je fais pas l'affaire, ils me mettront à la porte. C'est pas arrivé en 6 ans, là. Donc, je pense qu'on peut. C'est juste que ça demande une certaine dose d'audace, je dirais, parce que oui, effectivement, des fois, on sent que ce qu'on veut diffuser comme message ne convient pas nécessairement ou n'est pas tout à fait dans les mêmes orientations que le discours politique, mais bon, ça vient avec notre confort personnel à oser dire des choses qui ne vont pas dans le sens de ce qui est souhaité.
Mais à la santé publique, on peut sentir dans les directions régionales, on peut sentir le souffle du politique, c'est ce que vous me dites.
Bien, évidemment, on travaille pour une organisation qui relève ultimement du ministère. Donc, tout est. Je pense que dans un certain sens, c'est aussi normal de s'harmoniser entre les régions puis de s'harmoniser avec le discours national. Je pense que c'est correct d'essayer d'être cohérent puis de ne pas lancer des messages contradictoires, ce qui n'a pas d'effet non plus très bénéfique pour la population si on tire dans tous les sens, si on se contredit tout le temps. Donc, ça, je suis d'accord avec ça. Mais oui, évidemment, des fois, on va nommer des situations qui pointent du doigt. Je sais pas, moi, s'il s'est passé quelque chose où l'instance qui a commis un geste qui a pu causer de nuisance à la santé, si cette instance-là, c'est le réseau de la santé, il faut avoir la légitimité de le nommer. C'est un exemple auquel je pense comme ça.
OK. Là, le 3 octobre, vous allez être candidate dans Saint-François pour Québec solidaire. Ça a été annoncé il y a quelque temps. Pourquoi Québec solidaire?
Mais c'est le seul parti, en fait, pour lequel j'aurais pu aller. Là, c'est plus le parti que j'ai choisi que le fait d'aller en politique ou pas, parce que j'en avais pas vraiment besoin dans ma vie. Là. C'est vraiment que Québec solidaire, ça fait des années que quand je les entends parler, quand j'entends leur programmation, leur plateforme, les idées qu'ils défendent, c'est exactement ce que je défends depuis toujours en santé publique. Donc, pour moi, c'est super important de pas avoir à changer ou dénaturer mon discours pour de la politique. Sinon, je trouve que je suis pas cohérente avec les valeurs que je poursuis comme médecin en santé publique. Donc, pour moi, là, c'était juste, est-ce que je vais avoir le guts, excusez l'anglicisme, mais le guts de sortir de mon petit confort de médecin spécialiste à oser faire le saut. Là. C'est plus là où... Mais finalement, je me suis dit, pourquoi pas? Je ne sais pas, je ne saurais pas. Donc, voilà.
Parfait. Merci de nous avoir parlé. C'est toujours un plaisir.
Ça fait plaisir.
À la prochaine. Dr. Mélissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique, professeure à la Faculté de médecine et de sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et aussi ancienne directrice de la santé publique régionale de l'Estrie. Valérie Beaudoin est là. Salut Val.
Salut.
Donc Joe Biden a tenu un point de presse cet après-midi qui annonçait une série de mesures visant à diminuer le prix de l'essence.
Oui, parce que ce qui se passe à l'international avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie a accentué ce qu'il y a déjà aux États-Unis. Et ce qu'on voit aussi ici, le prix à la pompe qui augmente. Et je le dis souvent et je me répète, aux États-Unis comme ailleurs, mais surtout aux États-Unis, on vote beaucoup avec le portefeuille. Hein. Alors, si on voit que ça coûte plus cher, c'est important pour le gouvernement de prendre des mesures. Et là, ce qu'on a décidé de faire, ce que Biden a annoncé, c'est qu'il allait puiser dans la réserve stratégique de pétrole aux États-Unis qui existe. Et là, il va faire quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire, 1 million de barils par jour pour les 6 prochains mois, en espérant diminuer justement le prix à la pompe. Et ce qu'il va faire plus loin, et ça, c'est ce que je te dirais, je trouve le plus intéressant comme mesure, c'est faire pression sur le Congrès pour qu'on fasse quoi? Qu'on pénalise les compagnies pétrolières en ce moment qui s'en mettent plein les poches parce qu'ils veulent pas améliorer ou accentuer la production. Et je lisais, là, ils ont tellement de terres, 12 millions d'acres de terres fédérales non exploitées où il y a des permis pour les compagnies pétrolières et on veut pas les exploiter parce qu'on sait qu'en ce moment, on peut augmenter les profits. Ça veut dire que tu n'utilises pas la terre, ben tu la perds ou tu as une amende qui va être imposée parce que justement, on veut pénaliser ces gens-là. Est-ce que ça va passer? Est-ce que les membres du Congrès vont décider de le faire? Ça reste à voir. Et aussi, on veut réduire la dépendance face à la Chine. Donc, il y a ce qu'on appelle le Defense Production Act. Peut-être que les gens se rappellent, on s'en est parlé dans les médias l'an dernier. On avait utilisé ça, c'est une loi des années 50 pour dire qu'on concentre la production en temps de guerre, entre guillemets, ou de moyens de défense. L'an dernier, c'était sur les masques, où il y a 2 ans, là, au début de la pandémie.
C'est vrai, on avait invoqué une loi là sur les mesures d'urgence militaire pour ça.
Oui, qui datait de la guerre de Corée, mais qu'on imposait pour produire des masques aux États-Unis. Donc, on s'en va dans la même veine pour produire, ou pour plutôt exploiter des métaux aux États-Unis pour pas être dépendant face à la Chine, entre autres pour les véhicules électriques.
OK. Et selon le renseignement américain, Valérie, oui, t'as des petits problèmes de gorge. Selon le renseignement américain, ça c'est intéressant, là. Les conseillers de Vladimir Poutine auraient peur de lui dire la vérité sur la situation en Ukraine.
Écoute, dans le feuilleton, ça se poursuit et ce qu'on voit, là, c'est que les services américains ont dit Vladimir Poutine n'a même pas l'heure juste. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas lui dire ce qui se passe sur le terrain. Ils ne veulent pas lui dire à quel point l'économie américaine, pas américaine, mais russe est affectée aussi, à quel point il y a des soldats qui sont décédés, qui ont perdu la vie en Ukraine parce qu'on a peur de quoi? Justement, de conséquences. Et d'ailleurs, Joe Biden s'est fait poser une question là-dessus dans son point de presse quand je te parlais de tout ce qui est pétrole. On lui a demandé, mais est-ce que c'est vrai ces rumeurs-là? Qu'est-ce que vous savez de tout ça? Je te laisse l'entendre.
He seems to be, I'm not saying this with a certainty, he seems to be self-isolated and there's some indication that he has fired or put under house arrest some of his advisors.
Écoute, mais ça, écoute, c'est pas vraiment, je te dirais que c'est pas une surprise, OK? Parce que au début de la campagne russe, là, il y avait une entrevue dans un média américain avec Stephen Kotkin, qui est un grand, grand spécialiste de la Russie, qui a écrit les deux premières parties d'une série de trois biographies sur Staline, par exemple, OK? Mm-hmm. Et lui, il disait, écoutez, le problème avec les despotes comme Poutine, c'est que leur force, c'est aussi leur faiblesse. Oui, ils règnent avec une main de fer. Mais tellement de monde a peur de leur dire la vérité qu'autour d'eux autres, il y a deux phénomènes. Ceux qui sont là veulent pas leur dire le vrai score, mm-hmm, parce qu'ils ont peur de se faire couper la tête au sens propre ou figuré. Puis après ça, tu t'entoures juste de gens qui sont pas bons. Fait que ce que Biden dit, puisque le renseignement américain dit ces jours-ci sur le fait qu'il n'y a pas le vrai score, c'est parfaitement conséquent avec un dictateur qui fait le vide autour de lui.
Et c'est ce qui le rend le plus dangereux selon les analystes en ce moment, c'est de se dire, premièrement, il n'y a pas l'information. Et l'information qu'il y avait au départ, que ça allait se faire, là, tout ça, là, qu'on allait prendre l'Ukraine là, en quelques jours, et là, on est rendu à plus d'un mois, et c'est vraiment pas ce qui se passe sur le terrain. Ben, j'ai l'impression que ça aussi, ça le met en mode panique, et ça met ses conseillers en mode panique. Dans l'extrait, là, il disait que les gens, soit avaient perdu leur emploi, ou étaient à la maison carrément, house arrest, là, qui étaient arrêtés, et qui n'étaient pas en prison, mais qui devaient rester sur place dans leur domicile. Imagine quand même où c'est loin. Je comprends que ça ne surprend pas peut-être en connaissant la Russie actuelle, mais c'est vraiment ça, c'est plus que s'entourer de yes-men, là, c'est s'entourer de gens qui ne vont jamais te contredire.
OK, et parle-nous là, de cette hausse importante de migrants qui demandent l'asile politique via la frontière mexicaine.
Oui, on s'attend, écoute, à 170 000 personnes, vous avez bien entendu, qui vont peut-être se rendre à la frontière parce qu'il y avait ce qu'on appelle le titre 42 qui disait que si on demandait un asile à la frontière depuis mars 2020 en raison de la pandémie, ben on pouvait être expulsé automatiquement. À part les enfants non accompagnés, les mineurs non accompagnés, on a vu des images de ça là, dans les derniers mois, mais quand même, on renvoyait les gens. Et là, il y a 25 000 personnes, selon les évaluations, qui attendent dans des camps au Mexique. Alors, dès qu'on lève ce titre 42, là, dès que c'est plus, je te dirais, mis en place, eh bien, il y a au moins entre 12 et 16 000, ça fait beaucoup de chiffres, là, mais quand même, c'est pour montrer à quel point il y a de gens qui vont se ruer à la frontière pour demander un asile politique. Et là, l'administration Biden va avoir un sérieux problème parce que oui, ils sont pour accueillir des gens qui vont fuir la persécution, que ce soit dans des pays comme El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Mexique. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Comment on traite 16 000 personnes qui arrivent à la frontière en une journée? Je lance la question dans l'univers parce que, écoute, c'est assez difficile. Je lance beaucoup de questions dans l'univers cette semaine. Hein. Je trouve qu'il y a beaucoup de points d'interrogation dans la politique américaine, mais il y a 1,7 million de gens qui ont été bloqués récemment, qui ont été interceptés à la frontière. Donc, il y a toujours des gens qui tentent d'entrer aux États-Unis et ils ont surtout de la fausse information sur ce qui se passe et à quel point ils pourront être accueillis à bras ouverts. On risque de se réveiller avec des petites surprises au mois de mai quand on va laisser tomber ce titre 42, comme on l'appelle, selon la plupart des médias américains.
Merci Valérie, va reposer ta voix.
Oui, je vais aller prendre une petite pause de voix, je crois. Merci.
Salut, c'était Valérie Beaudoin pour la chronique américaine.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.